Choc FM 105.1, entretien avec Guillaume Laurin. Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur la politique américaine avec les plus récents développements. Les élections législatives américaines de novembre approchent et seront décisives pour l'avenir de Donald Trump. L'étau des scandales se resserre en effet de plus en plus sur lui. Seule la bonne santé économique du pays pourrait encore le sauver. Pour nous en parler, notre spécialiste de la politique américaine et de la politique internationale, le professeur Norman Cornett. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur Laurent. Et en effet, je suis à San Diego, en Californie, dans une circonscription qui est fortement républicaine. Et quand vous parliez tout à l'heure de scandale, eh bien, le représentant Duncan Hunter, républicain, qui avait facilement gagné les dernières élections et qui était jusqu'à mardi dernier le candidat républicain pour justement les élections mi-mandat, eh bien, on a formellement accusé les procureurs fédéraux d'avoir violé les lois sur le financement de sa campagne électorale, oui, la dernière de 2016, donc en parallèle, n'est-ce pas, avec ce qui se passe dans le camp de Donald Trump. Et vous savez, ça fait déjà 2 semaines que j'y suis, et c'est grâce à la Californie républicaine de ma jeunesse qu'on a eu, n'est-ce pas, le président Ronald Reagan.
Oui.
Et en tant qu'ancien de l'Université de Californie à Berkeley, c'est son nom qui figure sur mon diplôme. Et donc, et ça a lancé ce mouvement conservateur, politique, républicain. Mais on voit que chez Donald Trump, on va jusqu'à la limite de ce mouvement-là. Parce qu'il faut le dire, le parti républicain est maintenant celui de Donald Trump. Les démocrates, en parlant des élections mi-mandat, espèrent ce qu'on appelle une vague bleue.
Oui.
Mais il faut se rendre compte à quel point Donald Trump, c'est un tsunami politique.
Alors, en effet, vous avez raison de le préciser, professeur Cornett, le parti républicain se transforme petit à petit en parti de Donald Trump. Manifestement, il garde toujours un certain nombre de soutiens, mais malgré tout, il y a des divisions au sein de son camp et on va peut-être évoquer ensemble l'escalade de la confrontation entre le président américain Trump et son ministre de la Justice, Jeff Sessions, qui a continué par vagues successives jusqu'à vendredi dernier avec des nouvelles piques via Twitter, son moyen de communication favori. Alors, le président Donald Trump critique Sessions de ne pas assez s'occuper peut-être de la corruption du côté démocrate, alors que Jeff Sessions, quant à lui, refuse de se laisser influencer par des considérations politiques. Alors ma question, professeur, est-ce que vous pensez, depuis San Diego, où vous vous trouvez actuellement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir un limogeage de Jeff Sessions prochainement?
Très bonne question. D'abord, il faut souligner, il y a 3 pouvoirs au gouvernement fédéral américain. Il y a le pouvoir exécutif, donc la présidence. Il y a le pouvoir législatif, donc en 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Et le 3e pouvoir, judiciaire.
Oui.
Donc c'est justement, et vous faites bien de souligner cette juxtaposition entre le pouvoir exécutif, Donald Trump, et le pouvoir judiciaire incarné par Jeff Sessions. Or, on voit qu'il y a un conflit presque titanesque. Et ce qui est très différent, pourquoi je souligne les 3 pouvoirs dans le gouvernement fédéral américain, c'est qu'au contraire, du Parlement britannique et le modèle britannique,
oui,
du moment qu'il y a un ministre, quelqu'un du cabinet dont le premier ministre n'a plus confiance, eh bien, c'est automatiquement, cette personne n'est plus ministre, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et ça, je tiens à le signaler. Donc, il y a cette tension au sein du cabinet Donald Trump, c'est qu'il ne peut, enfin, officiellement, il pourrait congédier Jeff Sessions, mais il ne peut pas l'obliger, parce que ce n'est pas la tradition politique américaine.
Oui, oui.
Et donc, Jeff Sessions peut tenir bon jusqu'au bout, Monsieur Laurent. Mais, et si on veut voir la différence, j'invite l'auditoire de Choc FM de bien s'informer sur ce qui se passe en Australie, qui est basé sur le modèle parlementaire britannique, où il y a un gouvernement après l'autre, où il y a une démission d'un ministre après l'autre par,
oui, tout à
par
fait.
Manque de confiance. Or, il est évident que Trump n'a plus confiance en Jeff Sessions.
Tout à fait.
Donc, pourquoi est-ce qu'il s'en prend au tweet? Pourquoi est-ce qu'il il se sert tellement des médias sociaux? C'est qu'il veut, à toute fin pratique, obliger, forcer, tordre le bras de Jeff Sessions pour qu'il démissionne, parce qu'on sait tous, s'il le congédie, eh bien là, il y a un prix, il y a un coût politique onéreux à payer de la part de Donald Trump.
Mais, professeur Cornett, pour bien comprendre qu'il le congédie ou que Jeff Sessions décide de partir de lui-même, il me semble que ce serait dans ce cas-là l'actuel numéro 2 du département de la justice qui remplacerait le ministre. Et dans ce cas-là, ce serait Rod Rosenstein, dont on sait
Trump,
qu'il...
Trump est aussi contre Rod Rosenstein.
Absolument.
Qu'il est contre Jeff Sessions.
Puisque Rod Rosenstein mène actuellement l'enquête du procureur Mueller. Donc, Trump ne voudrait peut-être pas prendre ce risque, n'est-ce pas?
Oui, c'est en plein cela. Donc, vous savez, dans l'ère Trump, et je dis bien l'ère Trump, il y a un changement de paradigme politique depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc, dans l'ère Trump, ce qui compte, c'est vraiment les apparences plutôt que la substance.
Oui.
Or, Trump, ce qu'il est en train de faire, c'est d'humilier publiquement son propre ministre, le procureur général, le chef du département de la justice, pour l'obliger, pour le forcer à démissionner, parce qu'il le traite de tous les noms.
Et il
accuse d'incompétence. Mais jusqu'à dernièrement, Monsieur Laurent, on disait même, parce que Jeff Sessions, c'est l'ancien sénateur de l'Alabama, donc ancien collègue de John McCain qui vient de mourir, et on voit la division, pour ne pas dire la démarcation nette et claire dans la politique américaine vis-à-vis le décès de John McCain. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à dernièrement, les sénateurs, et c'est eux qui doivent approuver un nouveau procureur général, donc chef du département de la justice, jusqu'à dernièrement, eux, ils ont tracé une ligne rouge. Et même s'ils étaient d'accord avec Donald Trump, à plusieurs égards, ils disent ça, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas le faire. Parce que la charge politique sera trop forte. Vous allez donner carrément l'impression que cette enquête de Robert Mueller, eh bien, il y a quelque chose. Il y a de la substance dans cette enquête et vous allez faire, à toute fin pratique, obstruction à la justice. Vous allez... et donc, qu'est-ce qui se passe depuis la semaine dernière? Eh bien, le chef du comité du judiciaire du Sénat, le sénateur républicain Chuck Grassley de l'Iowa, il a dit « Ah, mais là, j'ai du temps, j'ai une place sur mon horaire pour confirmer un nouveau procureur général. » Et lui est chef jusqu'aux élections du mi-mandat. De plus, et donc il pourrait le faire avant les élections en novembre, de plus, celui qui, si les républicains ont la majorité au Sénat en 2019, c'est qui va le remplacer comme chef du comité judiciaire du Sénat? C'est nul autre que Lindsey Graham, Donc, tous les deux, les anciens collègues de Jeff Sessions, autrefois, eux le protégeaient. Ils le gardaient à l'abri parce qu'ils ne voulaient pas que ça soit, de communiquer l'idée que Donald Trump, que c'est une question d'entrave à la justice. Mm-hmm. Eh bien, là, Lindsey Graham aussi vient de dire, moi, je suis prêt à confirmer un nouveau procureur général. Alors là, on voit à quel point le pouvoir de Donald Trump dans le Parti républicain, eh bien, ça devient de plus en plus solide, à un point tel que les anciens sénateurs républicains, et surtout dans le cas de Lindsey Graham, qui autrefois critiquait Donald Trump, eh bien là, ils vont s'aligner avec la décision de Donald Trump dans le cas d'un potentiel d'un nouveau procureur général. Ça veut dire qu'il largue, oui. Il largue leur ancien collègue Jeff Sessions.
Jeff Sessions qui était extrêmement loyaliste vis-à-vis de Donald Trump jusqu'à il n'y a pas si longtemps, devient en quelque sorte le dernier rempart, notamment pour cette fameuse enquête russe qui embarrasse grandement Trump et les gens qui continuent à le soutenir.
Oui, et disons, dans le cas de Donald Trump, ce n'est pas seulement et peut-être surtout pas l'enquête de Robert Mueller qui doit l'inquiéter, parce que je tiens à souligner que le département de la justice, quand il s'agit d'un président au pouvoir, ne peut point l'accuser formellement. Mm-hmm. Tant et aussi longtemps. Donc si en 2020, Donald Trump est de nouveau élu président des États-Unis, ça veut dire qu'on ne peut pas donner suite à une accusation jusqu'après 2024. Mm-hmm. Mais, et ça c'est très important, et je tiens à souligner pour l'auditoire de Choc FM, on a entamé déjà des procédures de destitution d'un président américain. Je pense d'ailleurs, suite à la guerre civile et le président Andrew Johnson.
Absolument, en 1868, je crois.
Oui, et ça n'a pas abouti. On a entamé des procédures de destitution de Bill Clinton, mais il est arrivé à fin de mandat.
Absolument.
Savez-vous, Monsieur Laurent, on n'a pas destitué un seul président. On n'est pas allé jusqu'au bout avec un seul président. Et pour cause, c'est très, très difficile effectuer la destitution d'un président. Ça prend deux tiers du Sénat.
Cette fameuse, vous parlez ici de cette fameuse procédure qu'on appelle l'impeachment, n'est-ce pas, professeur?
Exactement. La destitution, c'est impeachment. Mm-hmm. Et qui plus est, un des grands experts de droit aux États-Unis, l'ancien professeur à l'université Harvard, Alan Dershowitz, vient de publier un livre qui s'intitule The Case Against Impeaching Trump, où il met le lecteur, la lectrice, devant l'évidence que ce que ça prend pour destituer Donald Trump est bien au-delà des rumeurs. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Mais là où c'est tout à fait différent, et d'ailleurs, ils viennent de le signaler hier sur les grands médias américains, Alan Dershowitz dit que le plus grand danger pour Donald Trump, c'est ce qui se passe dans l'État de New York, dans la ville de New York, et surtout dans la région de Manhattan, parce que au contraire des procureurs fédéraux, eh bien les procureurs d'État, dans ce cas-ci, les procureurs de l'État de New York, eux, elles peuvent porter des accusations.
Ah, voilà.
Alors, comme on dit au Québec, Donald Trump n'est pas sorti du bois.
Absolument. Et d'ailleurs, professeur, puisque vous en parlez, la semaine dernière, Donald Trump donnait une interview à la chaîne Fox News, la fameuse chaîne résolument conservatrice, on va dire, et déclarait en substance, l'économie s'effondrerait si j'étais empêché, si une procédure d'impeachment avait lieu contre moi. Il faut vous donc donc voir peut-être que Donald Trump lui-même quand même est gagné par une certaine inquiétude peut-être, et cette procédure, même si elle n'a pas abouti, vous l'avez rappelé, les trois fois où elle a été engagée, y compris contre Richard Nixon après le Watergate en 1974, elle pourrait malgré tout précipiter la chute de Trump.
Oui, oui, mais c'est loin de la coupe aux lèvres, parce que je tiens à souligner, je disais tout à l'heure que le parti républicain est maintenant le parti à toute fin pratique de Donald Trump. Donc il y a cette tsunami qui s'est passée dans le camp républicain. Et les sondages qui sont sortis ce matin même, croyez-le ou non, Monsieur Laurent, 88% des républicains approuvent Donald Trump suite aux révélations et aux accusations contre Michael Cohen, Paul Manafort, Flynn et d'autres.
Les scandales sexuels, les scandales de corruption.
Et c'est pas sur les délits sexuels qu'on peut destituer Donald Trump.
Tout à fait.
Alors que 90% des démocrates désapprouvent Donald Trump. Et c'est pour cela, je dis, qu'il y a comme un conflit titanesque aux États-Unis maintenant. Il n'y a pas de zone grise. On le voyait très bien avec le décès de John McCain.
Oui.
Là, on n'a même pas gardé le drapeau américain en berne à la Maison Blanche.
Oui.
C'est déjà
très symbolique.
Et Donald Trump, alors qu'on avait préparé un texte en bonne et due forme qu'on allait communiquer, un communiqué de presse, la Maison Blanche, eh bien, Donald Trump a dit non, parce que John McCain était a vertement critiqué Donald Trump.
Tout à fait. Il a d'ailleurs demandé à ce que Trump ne soit pas invité à son enterrement.
Oui. Donc, quand je dis que le Parti républicain, c'est maintenant le parti de Donald Trump. Et c'est le républicain traditionnel, celui de George W. Bush, qui d'ailleurs va livrer le discours lors des funérailles de John McCain, ainsi que Barack Obama, le démocrate. Il y a plus. C'est ça qui est différent chez Donald Trump. C'est ce que j'appelle la politique extrême. Le Donald Trump ne fait quartier.
Un pays profondément clivé, le professeur Norman Cornett en direct depuis San Diego. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à mes questions. En un mot pour terminer, quel sentiment avez-vous par rapport aux relations qu'entretiennent et que vont continuer d'entretenir les États-Unis et le Canada? Est-ce que vous sentez que le pays se désintéresse de son grand voisin du Nord?
Non, pas du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que disait Donald Trump hier dans un tweet et ce matin lors d'une conférence de presse? Rien de moins qu'une... Il promet une entente avec le Mexique et, après cela, une nouvelle entente avec le Canada. Et c'est pour cela que, croyez-le ou non, Monsieur Laurent, 85% de ceux et celles qui ont voté pour Donald Trump l'approuvent toujours. Et à leurs yeux, Donald Trump, au contraire de d'autres politiciens, il garde sa parole, il tient sa promesse. Donc, cette entente, Donald Trump avait dit qu'il allait négocier une nouvelle entente pour remplacer l'ALENA. Mais c'était aux yeux du grand public, aux yeux de ceux et celles qui ont voté pour Donald Trump, ces choses, ces paroles tenues. Et en terminant, j'aimerais dire... Le premier président républicain, c'était nul autre que Abraham Lincoln. Mmh. Or, le 16 juin 1858, lors de son discours pour accepter sa candidature pour le Sénat américain, il disait « Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister ». Or, cette division, cette démarcation, pour ne pas dire ce gouffre, dans la société, dans la politique américaine, elle est béante. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie, en tout cas. Et cette division, combien de temps peut subsister l'administration, le régime Trump, quand on juxtapose le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif?
Merci, professeur Norman Cornette, depuis San Diego, pour ce point sur la politique de notre voisin américain. Quant à nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.